Bonjour, shalom, assalam alaikum. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 7 juin 2023. Il sont 11h et nous vous saluons, vous qui êtes déjà en place à domicile, au bureau, seul ou en groupe, même au volant de votre véhicule, au bureau, un peu partout. Nous vous saluons ici à Lomé sur les antennes de Radio Lumière, de Radio Canal FM. Pendant que vous nous écoutez également sur Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix, La Voix des Plateaux à Takpamé, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio Sama FM à Baga, Niamtougou, Radio Daoul à Bassin, Radio Courtoisie à Dapan et dans le monde entier par le biais des médias numériques, Radio Le Bénin et Bénin Radio ou toutes autres applications numériques. Vitagbe Kokou Michel Tomega et Gérard Kodjo Akucha qui réalisent cette émission. Au studio déjà deux confrères, disons plutôt une consoeur et un confrère installé, c'est ceux qui sont à l'heure. Nous allons noter l'arrivée des retardataires au fur et à mesure qu'ils arriveront. Mercredi, nous allons parler naturellement de santé avec des articles très intéressants de santé et éducation parus aujourd'hui. Mais nous allons également ouvrir une page noire avec la grande faucheuse qui vient de faucher. Vous permettrez la répétition, la tautologie. Et puis reparcourir rapidement les ultimes hommages de la nation togolaise à Aboudou Assouma. Et puis la table ronde que le Togo a organisée il y a quelques jours sur la problématique des engrais pour revitaliser nos sols agricoles revient en force dans les journaux. Et puis, nous sommes en plein dans le recensement électoral dans la zone 3 et des journaux prennent acte de ce déroulement et anticipent déjà l'avenir après le recensement électoral. Quelle est la suite ? Quelle est la suite et surtout comment les partis politiques se préparent pour cette suite-là? Voilà le menu du Club de la Presse pour laquelle nous nous laissons inspirer par cette pensée du jour qui dit que donner des leçons aux autres, c'est bien, mais être un exemple avant tout, c'est mieux. Donner des leçons aux autres, c'est bien, mais être un exemple avant tout, c'est mieux. Je me permets d'adresser cette citation à nous-mêmes d'abord, journalistes dans ce studio et dans d'autres organes. Nous critiquons beaucoup, nous donnons beaucoup de leçons aux uns ou aux autres. Mais Estelle, nous devrions commencer par regarder par nous-mêmes d'abord, n'est-ce pas?
Oui, bonjour Sasso, bonjour aux confrères en studio, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM, oui. On a l'habitude de dire la répétition c'est la meilleure pédagogie, mais pour moi la meilleure pédagogie c'est l'exemplarité. Et en donnant l'exemple soi-même, on instruit indirectement. Il ne faut pas juste intimer de l'ordre, il ne faut pas juste j'ai dit de faire ceci, j'ai demandé de faire ceci, mais il faut s'appliquer et en t'appliquant, tu donnes indirectement l'ordre, tu donnes indirectement l'information autour de toi.
Les enseignants savent très bien que la meilleure pédagogie, c'est l'exemple que l'enseignant ou bien le maître ou la maîtresse donne dans sa classe. Et quelque part dans la Bible ou le Coran, on verrait que faites ce que je dis, mais encore mieux, faites comme je fais, n'est-ce pas Gadiel?
Absolument, c'est... Je pense que la conscience dit l'essentiel, donc tous on doit donner l'exemple au travers de notre vie. Cela instruit mieux que de donner des leçons. Alors je dis bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Canal FM.
Et comme l'heure c'est l'heure, nous démarrons, d'abord, nous avons déjà démarré, mais en attendant quand même que les retardataires grossissent nos rangs et que le débat soit davantage riche. Et surtout à partir de midi, quand les auditeurs vont entrer en ligne et vont composer le 22, 21, 33, 74 ou encore le 91, 36, 63, 75, nous serons encore plus édifiés. Il y a un cher ami, colonel de l'armée togolaise à la retraite de son état, qui nous écoute religieusement ou militairement, c'est selon, et qui hier a pris son crédit pour m'appeler. Nous avons parlé pendant près de 30 minutes. Il a reparcouru l'émission de la semaine et il a fait des observations, je ne dirais pas des critiques, mais cet ami, ancien colonel, adresse un carton vert à vous, les confrères journalistes, qui vous déplacez pour animer le club de la presse, hein, tous les débats pluriels, mais également la force d'esprit dont vous faites preuve, hein, pour recevoir les critiques, surtout quand les auditeurs appellent. Personne ne s'en émeut et nous nous enrichissons au jour le jour.
Merci également au colonel, vous avez dit, c'est bien ça. Au colonel, nous recevons ses encouragements à cœur joie.
Je suis tenté d'appeler son nom, mais vous savez, nos amis militaires, à l'exercice ou bien à la retraite, ils préfèrent plutôt demeurer la grande muette.
Dans l'anonymat, tout à fait.
Oh. Oui, Estelle, la grande faucheuse a été encore à l'œuvre hier. Et je venais de rentrer à la maison en début de soirée, puis j'ai reçu comme un coup de poignard dans le cœur. Cette information que tu écris dans tes colonnes ce matin, à savoir le confrère et ami, j'ai la chair de poule. Oui, ça va aller. Jacob Ahaman, animateur chroniqueur sur Radio Victoire, avec son émission fétiche du Kwame Benyadjojo. L'émission n'a pas passé ce matin parce que Jacob Ahaman n'est plus. Estelle.
Oui, c'est dur à croire, mais c'est tristement vrai. Jacob nous a quittés. L'information a commencé par comme une rumeur en début d'après-midi. On pensait que c'était juste une fausse alerte et que de bonnes nouvelles allaient suivre, mais malheureusement, en fin de soirée, l'information a été confirmée. Donc, notre confrère nous a quittés à la suite d'une courte maladie. C'est un peu difficile à croire, c'est un peu difficile à admettre, mais la réalité est là. Et nous ne pouvons que prier pour le repos éternel de son âme. Et c'est des situations qui nous rappellent encore notre passage éphémère sur cette terre, qui nous rappellent que nous devons semer du bien autour de nous. Hier, j'ai réfléchi longtemps sur certaines dernières paroles que mon grand-père m'a laissées avant de partir. Au détour d'une discussion, il me disait que j'aurais eu bien envie de savoir ce qu'on dira de moi après mon décès. C'est ce que mon grand-père, je lui demandais, mais pourquoi ça? Mais c'est aussi simple que ça, que ceux à qui il a eu la possibilité de venir en aide diront de bien de lui. Et ceux envers qui n'a pas eu la possibilité de tendre la main, raconteront tout ce qu'ils peuvent. Mais en conclusion, si nous avons la possibilité de semer du bien autour de nous, de tendre la main à autrui et d'être affable, d'avoir toujours de l'humanité en nous et d'avoir de l'empathie, bref, cultiver les valeurs ici-bas pour qu'on puisse dire du bien de nous après notre départ. Malheureusement, il y a de cela une semaine que je le disais ici, c'est après avoir quitté le monde qu'on attend souvent des témoignages autour du défunt. Je ne sais pas combien sommes-nous à avoir témoigné vraiment notre gratitude ou notre amour à désormais le défunt Jacob Ahaman. Aujourd'hui, quand je lis des choses sur la toile, tout ce qui se dit, et je ne sais pas si on a eu l'occasion vraiment de le lui dire de son vivant, mais bon, c'est fait, la grande faucheuse a encore agi, et condoléances
Jacob
à toute la
Ahaman
famille biologique,
avec,
à la famille professionnelle, et puis
son style,
qui lui est
particulier,
hein,
propre, ouais, à lui. La prochaine fois qu'on le verra pour les intimes, c'est sa dépouille qu'on ira porter en terre. Il ne va continuer à résonner dans nos oreilles et dans nos mémoires que ce que nous avons retenu de Jacob Ahaman, sa voix pour les enrichissements qui circulent déjà. Et c'est pas fini, Jacob Ahaman est parti. Et puis tard dans la nuit, nous apprenons que une grande maman, peut-être que c'est même la doyenne du commerce du Pagne Wax, ouais, La fameuse Madame Crépy s'en est elle aussi allée.
Oui, elle nous a également quittés cette nuit. C'est vrai que je n'ai pas encore vérifié l'information, mais elle aurait perdu également son fils.
Il y a quelques jours,
oui. Qu'elle aurait...
L'un de ses fils.
L'un de ses fils, en fait. L'un de ses fils, il y a de cela quelques jours. Je crois que l'inhumation aurait eu lieu il y a de cela 3 jours. Et 3 jours après, elle-même, elle décède également à l'âge de 88 ans. Donc, elle reste la seule hein, de l'époque des Nana Benz, vraiment, qui imprimaient...
Des vrais Nana Benz.
Qui imprimaient leur véhicule
à l'État togolais pour
justement
accueillir des eaux de mer.
Il y a des pagnes aujourd'hui dont nous gardons les noms. Ce sont ces dames-là qui dessinaient les imprimés. Et puis, avant que les impressions même ne se fassent de... à l'usine, donc la dernière vient de partir, Madame Crépy, donc paix également à son âme et beaucoup de courage également à sa famille, aux enfants.
Gadiel Gamelé, Madame Crépy, Jacob Ahama, et s'en sont allés. Nous sommes là pour le moment et continuons à faire du mieux ce à quoi nous sommes appelés.
Oui, c'est ça. Jacob Ahama, c'était un confrère, un ami, un frère qu'on croise chaque mercredi pratiquement au niveau de l'autre radio, Victoire FM, les matins, puisque nous animons. Nous sommes chroniqueurs matinales là-bas et ce matin, nous sommes passés par là, c'est difficile. Donc, c'est difficile, c'est très compliqué.
Ainsi va la vie,
oui. Donc, toutes nos condoléances à nous tous, à sa famille proche, à sa femme, à ses enfants.
Et à nos amis également de Radio Victoire.
De Radio Victoire FM, c'est difficile.
Mais nous sommes là, alors très rapidement, hein, dans la foulée de ces morts qui viennent de ces nous frapper. Hein, beaucoup de journaux reviennent aujourd'hui sur les ultimes hommages de la nation togolaise au désormais feu Aboudou Assouma. Nous en parlons beaucoup ces derniers jours, mais c'est l'actualité vu la taille de l'homme. Et aujourd'hui, c'est Togo Matin qui revient là-dessus. Hommage à feu Aboudou Assouma, un monument de la magistrature reconnu au Togo et ailleurs. Pendant que Gazelle Info écrit lui aussi à la page 3, hommage de la nation à Aboudou Assouma. Le messager y écrit lui aussi à la page 3, derniers hommages à El Hadj Aboudou Assouma. La dépêche à la page 6, un hommage national rendu à Aboudou Assouma. Et puis le libéral qui, sous forme de signe de la main, adieu, votre honneur. Voilà les derniers actes, les dernières paroles que nous disons à la mémoire de Aboudou Assouma. Gadiel, rebonjour.
Oui, ça c'est le bonjour.
Santé éducation paru aujourd'hui et comme le journal le rappelle, à son jour d'incidence, nous sommes le 7 juin 2023 et le 7 juin est la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Gadiel, Santé Éducation, vous nous rappelez les normes alimentaires qui peuvent sauver des vies. Et l'article rappelle que la sécurité sanitaire des aliments relève bien sûr, de la responsabilité commune des autorités nationales, mais aussi des producteurs et des consommateurs. Chacun a son rôle à jouer pour l'assurance de la sécurité sanitaire des aliments que nous ingurgitons.
Oui, les normes alimentaires sauvent des vies. C'est le thème de cette journée, en tout cas de l'édition 2023. Les aliments constituent le premier facteur de santé, nous n'avons jamais cessé de le dire. Et il est important que ce que nous mangeons, ce que nous consommons, ait un certain nombre de standards de propriétés d'hygiène. Et selon l'OMS, actuellement, il y a plus de 600 000 personnes qui sont intoxiquées par rapport à leur alimentation dans le monde. Et la situation s'aggrave au jour le jour, surtout dans nos pays en développement. L'enjeu actuellement, c'est au niveau de toute la chaîne de production des aliments qui sont exposés sur le marché. Là, il faut des standards pour que le consommateur au final puisse avoir un aliment propre pour sa santé. Et, ben voilà. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Plus de 200 maladies peuvent être contractées au travers d'un aliment impropre. Pour cette journée, nous mettons encore le projecteur sur ce que nous consommons dans les rues, c'est-à-dire le restaurant ouvert dans la rue. Et c'est sur ce fait-là qu'on met plus l'accent parce que tout observateur constate que les standards d'hygiène ne sont pas toujours respectés. Depuis les maisons de production où on prépare les aliments jusqu'au lieu, en passant par les ustensiles dans lesquels on sert ces aliments, c'est tout un tas de problèmes dont vous allez pour acheter des maladies pour votre consommation. Donc, c'est une journée que nous avons en tout cas consacrée sur toute une page dans ce journal avec des articles intéressants pour nous éveiller par rapport à notre alimentation.
La journée, c'est journée de la sécurité sanitaire des aliments. Nous avons appris la ration alimentaire en classe de 3e au collège. Hein, il y a les normes d'hygiène. Et Gadiel vient de rappeler hein, les restaurants de la rue. Nous tous, nous y allons, nous mangeons. On peut accuser celles et ceux qui préparent. On peut accuser l'État qui est défaillant pour... le service d'hygiène qui n'est pas toujours là, des critiques sont adressées au ministère de la Santé, mais nous-mêmes qui allons volontairement, qui achetons, qui mangeons sur place, ou qui achetons les aliments, même chauds, dans les plastiques, avant de les manger, est-ce que chacun joue sa partition? En tout cas, Santé Éducation nous le rappelle, les États ont leur responsabilité. Les producteurs ont leur responsabilité. Les restaurateurs, ceux et celles qui préparent, également sont responsables. Mais Estelle, toi et moi.
Et les consommateurs.
Toi et moi, qui allons manger également, assurons-nous que nous allons manger pour nous alimenter, non pas pour nous intoxiquer.
Tout à fait.
Gadiel, nous continuons à page 5. Si nous souffrons malheureusement d'insuffisance respiratoire, il y a un remède naturel sur le marché dont Santé Éducation nous parle aujourd'hui.
Oui, lorsqu'il arrive chez une personne dans une position assise, en tout cas la personne est assise et puis elle est soulevée, elle sent une sorte de gêne respiratoire. Cela peut être un début d'insuffisance respiratoire. Vous savez, il y a plusieurs causes hein, qui peuvent amener à l'insuffisance respiratoire chez les hypertendus. Par exemple, cela peut arriver. Il y a aussi d'autres facteurs comme la sédentarité, l'obésité, le surpoids, la mauvaise alimentation.
C'est facile, c'est ceux qui restent trop longtemps couchés ou trop longtemps assis. Parce qu'ils sont riches, ils ont toutes les commodités. Oh. On ne trouve plus le besoin de faire un minimum d'efforts physiques. C'est eux qui sont dans la sédentarité.
Oui, et ceux qui sont au bureau aussi, qui sont en train de travailler sans se lever.
Oui, parce que le bureau est climatisé, heures. le fauteuil est moelleux. On reste là-bas de 7 heures. Même on fait la pause midi au bureau et jusqu'au soir.
Oh, pas forcément. Pas forcément. On peut avoir du travail à faire du matin jusqu'au soir par moment au bureau.
Absolument. Revenons à Gadiel.
Voilà, donc c'est un fait qui est aujourd'hui très récurrent. Et cela peut venir des maladies, comme je viens de le dire. Et il y a des symptômes. Il y a des symptômes plus parlants. Quand on a une insuffisance respiratoire, cela peut conduire à un certain nombre de complications qui sont décrites dans l'article. Alors, dans cet article, nous avons mis un remède naturel. C'est une recette qui permet de prévenir, en tout cas qui aide à prévenir cette situation. Donc, c'est un article plus adressé aux hypertendus, ceux qui ne font pas encore une insuffisance respiratoire, qui n'ont pas encore cette difficulté, cet essoufflement. Et puis pour plusieurs d'autres personnes qui sentent ce mal-là, c'est juste de l'alimentation, hein. Ce n'est pas sorcier, c'est une recette à faire à la maison pour éviter ces complications, bien pour prévenir l'insuffisance
Merci
respiratoire.
Gadiel, les ingrédients et la recette, hein, c'est dans l'article à la page 5. Et puis tout à côté, nous avons un autre article pas moins intéressant, c'est les aliments qui sont recommandés pour une meilleure circulation du sang dans notre organisme.
La circulation du sang, on en parle toujours, ça c'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup de diagnostics qui sont faits dans les hôpitaux ressortent cela. Le sang doit circuler normalement dans l'organisme. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première raison, c'est que le sang est chargé d'oxygène. L'oxygène, nous en avons besoin quand nous respirons. Tous nos organes, l'organisme d'une manière générale, en a besoin. Donc, la seule voie pour avoir assez de l'oxygène pour l'organisme, c'est par le sang. Et puis, le sang est chargé aussi des nutriments pour nourrir les différentes parties de l'organisme. Donc, quand le sang ne circule pas bien, il y a des problèmes. Et le premier signe, c'est qu'il y a des fourmillements au niveau des doigts, au niveau des pieds. Il peut avoir une enflure, ce qu'on appelle le l'œdème au niveau des pieds. Et voilà. Donc, si quelqu'un voit ou bien a ce genre de signe, qu'il aille consulter, hein, la mauvaise circulation du sang, c'est très mauvais c'est un mauvais signe de santé. Bon, dans cet article, il y a des conseils qui sont donnés. Et puis, voilà, des aliments. Des aliments que nous avons chez nous qui aident une bonne circulation de sang. C'est-à-dire que ce sont ces aliments qui agissent sur plusieurs organes, notamment le vaisseau sanguin, le cœur, le foie. Voilà.
Ces aliments qu'on trouve partout, hein, surtout à 200 mètres, même pas, hein, des studios de Canal FM ici. Le marché ouvre. Vous verrez à profusion des oranges, du gingembre, de la pastèque, hein, et puis un peu plus loin, du chocolat noir, de l'ail et des oignons. Et dans des magasins, des saumons, des avocats, pour favoriser une meilleure circulation du sang dans l'organisme.
Absolument.
Gadiel, nous continuons avec cette autre maladie dont certainement les auditeurs, sinon même des gens ici à Canal FM souffrent, c'est la lombalgie. La lombalgie dont vous écrivez qu'elle peut être ressentie de façon légère ou intense, persistante ou passagère, violente, lancinante, insoutenable, ces douleurs dorsales souvent négligées peuvent pourtant amener une personne à finir sur une chaise roulante pour dire qu'on peut se retrouver paralysé si on ne traite pas bien la lombalgie ou bien les douleurs du dos.
Oui, la lombalgie, le mot facile, c'est, ou bien l'expression facile, c'est les douleurs du dos. Et ce article, nous sommes partis du témoignage d'un patient qui, comme ça, une journée banale, s'est retrouvé avec un mal de dos, avec une certaine négligence, et finalement, cela l'a conduit à la paralysie. Donc, c'est un témoignage que tout le monde peut lire dans cet article. Mais attention, quand on sent un mal de dos, s'il vous plaît, qui perdure, ne serait-ce que 3 jours, 1 semaine, il faut aller consulter. Cet article est fait avec des experts du Centre national d'appareillage orthopédique au niveau du CNAO ici à Lomé. La lombalgie aujourd'hui, c'est un mal récurrent, s'il vous plaît. Donc, ne négligeons pas les douleurs de dos. Ne faisons pas trop l'automédication à la maison. Il faut aller consulter. Il y a une prise en charge tout à fait adaptée à ce genre de problème.
C'est au CNAO.
Au CNAO.
Centre national d'appareillage orthopédique. Et l'article rêve que les rhumatologues enregistrent beaucoup de patients qui viennent consulter au sujet de la lombalgie.
Tout à fait. Donc, ne pas rester à la maison. Il faut aller au CNAO, il faut aller à l'hôpital pour les diagnostics et une prise en charge. Très tôt, on peut guérir facilement.
On peut guérir facilement si on s'y prend tôt, parce que si on laisse traîner et que la lombalgie peut évoluer jusqu'à l'usure des vertèbres du bas du dos et que cela touche les nerfs, attention là,
à paralyser.
Ce ne sera plus de la blague.
Non.
Alors il semble que c'est des gens qui ont des dos longs, comme Estelle et moi, qui sont les plus exposés à cette lombalgie.
En tout cas, tout le monde est exposé.
Même toi.
C'est vrai qu'il y a des facteurs, mais tout le monde est exposé. Tout le monde est exposé. Donc, ce n'est pas seulement ceux qui sont de grande taille. Même si je suis sûr que nous tous ici, dans ce studio, nous sommes de grande taille.
Même toi et Estelle. Et Michel aussi. Pour la bonne humeur, Fabrice Patton-Pétézi, bonjour.
Bonjour à toi, Sass. Bonjour aux confrères et bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Je dois te féliciter hein, parce que tu as dû faire un gros effort pour arriver avec toutes tes charges, père de famille, président de l'OTM. Tu dois être sollicité ici et là ces derniers temps.
Oui, je crois que c'est aussi un devoir d'être dans ce studio pour échanger avec les confrères sur l'actualité et apporter également ce qu'on peut pour nos auditeurs.
Et auditrices.
Bien sûr.
Merci avec Jacob Bahama qui vient de nous quitter. Un deuil encore qui nous frappe.
Oui, une voix qu'on n'entendra plus. C'est vraiment triste ce qui est arrivé à notre confrère. Ça a été brusque. C'est vrai qu'on raconte que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas abattre. Et tous ceux qui sont proches de lui disent quand même qu'il a lutté pendant longtemps contre le mal qui finalement l'a emporté. Et je crois que c'est un peu ça aussi le mythe de la radio, où parfois on est obligé de faire certains efforts pour répondre présent pour le bonheur des auditeurs, même si on souffre à l'intérieur. Paix à son âme et toutes nos condoléances à nos confrères de Victoire FM, à toute la corporation et à sa famille également.
Tu ne sais pas si bien dit, il y a des jours, hein, nous arrivons à la radio, nous trouvons la force et l'énergie de tenir le micro, ouais. Mais si c'est que nous étions à la télé, que les auditeurs pouvaient nous voir, ils sauraient que c'est vraiment un gros effort que nous faisons le jour.
Tout à fait.
Et pas seulement les animateurs, mais vous aussi les invités.
Oui, bien sûr.
Merci. Bien, nous continuons avec cette table ronde, que le Togo a organisée, accueillie la semaine dernière. Il y avait aux côtés de Faure Gnassingbé deux chefs d'État et puis des plénipotentiaires, vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre de la Banque mondiale et des plénipotentiaires venus d'un peu partout. Il s'était agi de réfléchir sur la problématique de mettre à profusion des engrais de qualité, ceci pour revitaliser les sols agricoles. Plus d'une semaine après, beaucoup de journaux reviennent sur le sujet aujourd'hui. Commençons la revue de presse avec le confrère La Manchette qui nous parle naturellement de cette réunion de l'OMS sur les engrais et la santé des sols. Et le journal se demande, et si René Dumont avait toujours raison, 63 ans après les indépendances, les plus âgés se rappellent que l'agronome français René Dumont écrivait déjà en 1962 que l'Afrique noire était mal partie. Hein, pour dire que déjà René Dumont indexait hein, les politiques hein, que pratiquaient les pays africains, ce que l'agronome trouvait que c'était inapproprié pour notre développement. Des décennies plus tard, non seulement l'actualité lui donne raison, mais les chefs d'État, les États hein, en prennent conscience et essaient de réorienter la donne. Le messager également écrit que par président Faure Gnassingbé et Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale, en Afrique de l'Ouest, cultiver l'avenir passe par la production d'engrais. Le messager qui produit cet autre article sur la table ronde sur les engrais et qui écrit les engagements de la rencontre de Lomé. La lanterne y va de sa plume aussi, écrit à la page 3. Table ronde de haut niveau sur les engrais et la santé des sols, des résolutions qui boostent le développement agricole, hein, résolution adoptée à Lomé. Et Focus Info, paru aujourd'hui, y consacre deux pages avec cet article intitulé « Accès équitable aux engrais, la solution de Lomé », notamment une enveloppe supplémentaire de 1,5 milliard, soit 1 milliards de francs CFA que la Banque mondiale met à la disposition du secteur agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre d'ici 2024, dans moins d'un an et demi, dans environ un an et demi. Et puis, des suites de la table ronde de Lomé, cet autre article, une usine de production d'engrais bientôt au Togo avec l'appui de l'Office chérifien des phosphates. Fabrice, comme je le disais, plus d'une semaine après, beaucoup de journaux trouvent important de revenir sur le sujet, ça veut dire que c'est un sujet d'importance.
Oui, c'est un sujet d'importance parce que aujourd'hui, je crois que le problème de l'Afrique c'est la faim. Il faut réduire la faim, lutter contre la faim. Et pour lutter contre cette faim-là, il faut accroître la productivité. Or, il se fait que, selon les analyses scientifiques, nos sols commencent par se fatiguer. Alors, si nos sols se fatiguent, qu'est-ce qu'il faut faire pour accroître la productivité et pouvoir nourrir toutes ces bouches qui ne cessent de s'accroître au jour le jour? Je crois que ce sont ces réflexions-là. Et il y a eu quand même de grandes résolutions, comme à chaque table ronde. Et le défi, c'est de passer à l'application de tout ce qui a été décidé ici à Lomé pour qu'effectivement notre production agricole s'augmente. Parce que quand vous prenez le dernier recensement, je crois que nous devrions être 8 millions d'habitants.
Un peu plus de 8 millions d'habitants au Togo.
Alors, dans 10, 20 ans, combien serons-nous et de quoi allons-nous nourrir? Je crois qu'il faut d'ores et déjà se poser ces questions-là. D'où la nécessité de, puisqu'on sait que l'agriculture, quand même, c'est un secteur très important. Quoi qu'on dise, il faudra déjà mener des réflexions. Et comme le disait peut-être le confrère, je crois que sur ce point, on a été vraiment en retard. Même quand on prend le cas du Togo, une usine d'engrais, je crois qu'on aurait pu l'envisager un peu plus tôt. C'est vrai que l'idée semble se concrétiser maintenant, mais on avait quand même un sous-sol qui nous permettait quand même de régler ce problème un peu plus tôt avec la présence du phosphate dans nos sous-sols, puisque ça fait partie également des matières qui entrent dans la fabrication de l'engrais. Et donc, c'est des questions sur lesquelles il fallait vite réfléchir et trouver des solutions. Et je crois qu'il faut le faire parce que, comme je l'ai dit, la population continue de s'augmenter et il faut nourrir toutes ces bouches-là.
Et la population continue d'augmenter, 8 millions, 100 quelque chose, 1000. Et les prévisions annoncent que le Togo pourrait doubler sa population d'ici 2050, ouais. dans une génération.
Oui.
Et pendant que la population augmente, la taille du pays, elle n'augmente pas.
Bien
mieux
sûr.
Ou pire, c'est les villes qui prennent de plus en plus le pas sur les terrains, les terres agricoles que nous appauvrissons davantage. La pluviométrie qui devient capricieuse avec le changement climatique, ça veut dire, Estelle, que nous devons rivaliser d'ardeur, faire tourner nos méninges sur la base des phosphates que nous avons et des terres agricoles, arriver à une agriculture qui produise beaucoup mieux, beaucoup plus.
Oui, c'est bien ça. C'est une grande équation que tu poses là. C'est sur ces bases qu'on anticipe, en fait, pour les politiques dans un pays. J'espère que les agronomes se penchent déjà sur ces questions-là, puisque effectivement, la population s'accroît. Mais la superficie, les dimensions du Togo restent les mêmes. Les villes s'agrandissent, les villages se réduisent. Donc, effectivement, ça va poser un problème à l'avenir si nous n'anticipons pas, si nous ne prenons pas les dispositions déjà pour voir dans quelle mesure on peut trouver des solutions idoines à ce manque à gagner. Puisque aujourd'hui, déjà, malgré la taille de notre population et encore un peu de disponibilité des terres cultivables, on n'a pas encore l'autosuffisance alimentaire. Le problème se pose déjà. Maintenant, à espérer dans les prochaines années où la démographie sera encore vraiment grandissante et que les terres cultivables vont se réduire. Bon, comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Je crois qu'il faut déjà se pencher sur ces problèmes-là pour pouvoir anticiper, pour ne pas vivre le désastre dans les prochaines années.
Surtout, Fabrice, que notre agriculture, d'abord, la taille de nos exploitations, c'est très réduit comme surface que cultivent les paysans. Avec quels outils? Encore des outils aratoires. C'est maintenant que l'État ambitionne de se lancer dans la mécanisation avec les agropôles, les ZAP. Et puis, ce qui a été inauguré, enfin, lancé à Chichao avec la mécanisation. Et maintenant, les engrais devront compléter pour améliorer nos rendements. Fabrice, est-ce que tu as une idée de ce que nous produisons à l'hectare pour nos tubercules, pour nos céréales et autres? C'est vraiment rudimentaire, vraiment.
Oui, c'est rudimentaire parce que La dernière fois au FOPAT, le chef de l'État émettait un rêve, celui de voir des agriculteurs devenir milliardaires. Ça ne sera pas avec la roue, ça il faut qu'on se le dise. Et donc cette agriculture de subsistance qu'on avait à une certaine époque où bon, on a sa maison et autour de sa maison, on a un petit champ de maïs, d'arachide, de mil et tout ça.
Surtout avec nos parents Kabyes.
Ouais, qui permettait tout à fait, qui permettait de nourrir la petite famille. Aujourd'hui, c'est dépassé. Il faut de très grandes surfaces. Il faut d'ores et déjà commencer par réfléchir à cela. C'est vrai que il y avait eu quand même des mécanismes qui avaient été mis sur pied, mais la mauvaise gestion étant au rendez-vous, on a perdu beaucoup d'acquis. Sinon, la révolution verte était quand même une politique qui anticipait déjà sur beaucoup de choses, avec beaucoup de structures qui avaient été mises en place. Aujourd'hui, on parle encore des banques agricoles alors qu'on en a eu. Au niveau du Togo, il y avait ce qu'on appelait la SORAD, après la DRDR. Aujourd'hui, on ne parle que de l'ANSAT avec les produits finis et tout cela et autres. Je crois qu'il y avait de l'anticipation, mais il n'y a pas eu une suite dans toutes ces idées-là par rapport à cette révolution verte-là qui avait été décrétée et qui aurait pu quand même permettre peut-être au Togo de régler un certain nombre de problèmes. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une certaine anarchie dans l'exploitation des sols. Comme on le dit, les sols cultivables se réduisent avec l'augmentation de la population et tout cela. Il faut tout planifier. Nous ne sommes pas les plus nombreux. Aujourd'hui, quand vous prenez... Tout le monde a étudié l'exemple américain, les États-Unis avec l'agriculture. Quand ils parlent des belts, c'est des champs à perte de vue ou parfois même pour faire tour, c'est en hélicoptère. Et donc, je crois que des pays qui, malgré ça, qui sont très développés, mais qui ont quand même réussi à avoir des espaces comme ça qui leur permettent quand même de régler ce problème lié à la production.
Oui, hein, nous souffrons souvent de la mauvaise gestion de nos programmes, si bien que nous faisons ce travail décisif. Merci Fabrice de rappeler que déjà, Feu Gnassingbé Adema avait lancé la révolution verte en 1977. Vous vous rappelez, il y avait une grande famine qui avait sévi au Togo. C'est suite à ça que Adema avait lancé non seulement la journée de l'arbre, mais également la révolution verte, avec ce qui a accompagné comme la Caisse nationale de sécurité de crédit agricole, la Banque des paysans et tous ces programmes-là. Mais on a mal géré, on a dilapidé les ressources, on a tout détourné. Et maintenant, Estelle, plus de 50 ans après, nous devons rechercher des moyens pour relancer ce qui avait été déjà fait.
Et parfois, on a quand même l'impression que notre problème, c'est nous-mêmes. Ayons le courage de le dire.
Toi, tu pensais que c'est qui?
Oui, on a tendance à accuser parfois autrui. C'est parce que autrui, on ne veut pas prendre nos responsabilités. Mais ayons le courage de le dire aujourd'hui. Comme vous avez peint le tableau tout à l'heure, oui, on avait déjà anticipé. Mais pourquoi on n'a pas pu réussir ces différents programmes? On revient aujourd'hui relancer les mêmes programmes. Oui. Justement, à la suite de cette rencontre qui a eu la fois passée, il y a des résolutions qui sont prises. Mais enfin, moi, j'attends de voir, je reste un peu dubitatif par rapport à l'exécution de toutes ces déclarations-là. Puisque on le vit souvent, il ne sert à rien de faire ces déclarations. S'il n'y a pas de suivi, si la mise en œuvre ne suit pas pour l'atteinte des résultats, on va faire des déclarations, mais dans 10 ans, dans 20 ans, on reviendra, on va recommencer encore le même travail.
Les gens reviendront
pour parler du même problème, justement. Donc, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Les problèmes sont là. On les vit. On a des approches de solutions. Mais pourquoi on ne peut pas les mettre en application, en exécution pour avancer? Donc, c'est un peu curieux que nous disons les mêmes choses à chaque fois, mais qu'il n'y a pas vraiment. C'est en cela que parfois on est obligé de dire qu'il y a peut-être un manque de volonté dans l'exécution de ces différents programmes. On a comme l'impression que c'est des effets d'annonce. On déclare pour faire plaisir à des gens et puis la suite, ça ne vient pas, quoi. Il y a déjà plusieurs programmes qui ont été décrétés, surtout en matière d'agriculture dans ce pays. On ne sait comment est-ce que ça se gère. Après, on met fin à ce programme, on ouvre un autre. On ne sait ce qui se passe. On ferme, on ouvre encore un autre. Bon, les exemples sont légions, donc... Mais il faut quand même qu'on tire la sonnette d'alarme et que le problème devient de plus en plus préoccupant. Il faut qu'on analyse les choses pour vraiment anticiper.
En rappelant, on a du mal à lire la conséquence dans nos programmes. La preuve, Fabrice, Estelle et Gadiel, il y a ces derniers temps, c'est le soja qui est la céréale à l'honneur, le Togo, premier exportateur du soja bio en Europe. On a même envisagé la création d'usines à la PIA d'Étiquette. Et puis, les informations qui pullulent dans la presse et sur les réseaux, c'est que la filière soja a un problème. Aujourd'hui, c'est Focus Info qui consacre une page avec cet article à l'embellie, la filière soja déjà à la croisée des chemins. C'est une intention. L'article dit que la campagne de commercialisation 2022-2023 du soja serait d'un goût amer pour les producteurs et commerçants. D'abord, lancement tardif de la campagne, retard de délivrance des agréments. La filière soja pourrait déjà sombrer dans les prochains jours. C'est ce qu'écrit Focus Info avec le conseil interprofessionnel de la filière soja qui a rencontré la presse il y a quelques jours pour crier. Mais apparemment, jusqu'à ce jour, il n'y a pas de solution. Et Focus Info parle aussi de du calvaire des producteurs. Et il faut sauver la filière soja à tout prix. Voilà, Fabrice, à peine on dit que le soja est porteur que cette machine semble s'enrhumer. Et depuis que les producteurs, les négociants crient par voie des médias, le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce, est-ce que tu as signe d'eux?
Non, je suivais il y a quelques jours une de vos émissions où il y avait ces interpellations où on attend plus ou moins une réaction plus officielle du ministère en charge de l'Agriculture au Togo pour qu'on ait au moins un son de cloche venant de là pour voir exactement qu'est-ce qui se passe exactement avec cette filière soja, comme tu le disais, bien qu'on a bien présenté il y a seulement quelques années et qui, du coup, a déjà des problèmes. Je crois qu'il faut quand même, quand on a l'opportunité de réussir dans un domaine, il faut à tout prix le préserver, surtout qu'on n'est pas premier tous les jours et très rarement. Donc, quand on a la chance de l'être, il faut le préserver vivement. Que ceux qui s'y connaissent dans cette histoire disent quelque chose et pour qu'on sache exactement qu'est-ce qui se passe avec la filière soja.
En tout cas, nous continuons avec l'espoir que nous saurons trouver une personne ressource vraiment habilitée à nous dire, à éclairer l'opinion sur ce qui se passe au juste dans la filière soja. Parce que c'est les paysans, certains ont loué les terres, d'autres ont contracté des prêts, des crédits ici et là, ils sont endettés, ils ont besoin de vendre leur production. Sinon, Estelle, les sojaculteurs risqueraient de se détourner et d'aller vers d'autres cultures.
Oui, mais ça aussi, vous ne trouvez pas ça curieux? Ça fait combien de temps que nous en parlons ici? Oui, si vous avez bonne mémoire, dites-moi. Ça fait bientôt 3 mois. On a interpellé énormément la fois passée les 2 ministères qui s'en chargent. Ne serait-ce que pour faire une sortie officielle, pour situer en fait la responsabilité, nous donner plus d'informations pour qu'on comprenne ce qui ne va pas dans ce secteur-là. Plusieurs fois, on en parle, mais bon, c'est silence radio, quoi. Sincèrement, ça se fait réfléchir. Parfois, on est obligé de s'imaginer des choses, c'est ça qui laisse libre cours à des supputations, c'est ça qui laisse libre cours à je ne sais n'importe quoi. Mais il faut sortir s'il y a une situation, expliquer, communiquer autour de la situation pour que tout le monde comprenne réellement ce qui se passe, s'il y a des alternatives à prendre au niveau des producteurs, qu'ils sachent à quoi s'en tenir. Mais laisser comme ça dans le silence total pendant qu'ils végètent dans la misère, ils ont des engagements à respecter et tout ce qui s'en suit, c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable, mais nous pensons encore qu'il n'est pas tard pour le faire et que bientôt les solutions idoines vont être apportées pour sauver ce secteur-là.
Non, moi j'ai bien envie de prendre le risque de dire que ou alors ça, c'est l'affaire dépasse un peu le ministère, les ministères.
Oui, mais il faut le dire aussi.
Parce que là, je crois que, pour moi, je n'en sais rien. Je n'ai pas assisté à la conférence de presse. J'ai jamais croisé les sojaculteurs pour voir de quoi. Mais bon, comme par enchantement, ou bien c'est nos amis de PIA qui apportent le malheur, ou je ne sais quoi. Parce que, apparemment, c'est quand non, l'idée.
Le problème, pour le résumer, c'est que, et les producteurs, et les négociants se retrouvent avec des cargaisons de soja sur les bras. ils ne peuvent le vendre ni aux usines de la PIA, encore moins exporter la production.
La PIA était censée prendre une partie, mais la PIA n'achète pas. Maintenant, ils doivent avoir les agréments pour vendre à l'extérieur.
On annonce la création d'une usine. Je crois que c'était quand même un élément pour amener les gens à redoubler d'ardeur dans la production. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, qu'on dise que les gens se retrouvent avec leur production sous la main à n'en savoir quoi faire. Donc, pour moi, il faut regarder de ce côté.
Bon. En tout cas, vous continuez à chercher trouver l'information.
Peut-être que je prêche le faux pour avoir le vrai,
s'il vous plaît. Pourquoi vous dites qu'on continue pas à chercher?
En fait, nous journalistes, nous cherchons
on n'a pas d'informations officielles.
Les voies officielles pour nous dire ce qui se passe au juste.
De toute façon, je pense que l'interlocuteur est bien désigné. C'est les dirigeants, c'est l'autorité, c'est le ministère, le ministre tutelle. Ce sont eux, c'est eux. S'ils ne se prononcent pas, peut-être qu'ils sont dans l'embrouille par rapport à cette situation-là, c'est tout. Donc, sincèrement parlant, et c'est vraiment dommage parce que, comme l'ont dit les confrères, c'est ce côté qui prend au niveau du pays. Et bien voilà que peut-être que nous sommes en train d'assister comme ça à cet effondrement de cette production togolaise, serait vraiment dommage.
C'est comme ça que le coton qui était en proue est tombé. Et maintenant, on a tous les problèmes pour le faire remonter. Est-ce qu'on veut faire prendre le même risque au soja aussi?
C'est déjà pris.
Nous continuons avec le recensement électoral qui est déjà en cours dans la zone 3, région des savanes, région de la Kara, une partie de la région centrale. D'après les échos que nous avons de nos confrères de la région, ça se passe plus ou moins bien. Là-dessus, la lanterne écrit aujourd'hui, bientôt la fin du recensement électoral, place à la date des élections. Estelle, il a été annoncé pour cette année 2023, deux élections, élections régionales, élections législatives, sauf que on n'a aucune date, ne serait-ce qu'approximative. On ne sait même pas si ces deux élections seraient couplées ou si on devrait faire les unes avant les autres. Peut-être qu'à la fin du recensement électoral, ou la CENI, ou le gouvernement pourrait déjà nous donner ne serait-ce que des traces d'indication.
On espère. Sinon, jusqu'alors, on a comme impression qu'on navigue à vue. Il n'y a pas d'échéance proprement définie. Mais les partis politiques, les différents états-majors des partis politiques se préparent aussi en conséquence par rapport au deadline, qui est la fin quand même de l'année. On ne sait pas, on ne connaît pas la date exacte, mais c'est la fin de l'année. C'est un peu ça. La zone 3 a démarré son recensement. Les opérations se déroulent bien. Donc, comme tu le dis, espérons que peut-être d'ici jusqu'à la fin du recensement dans la zone 3, plus de précision sera donnée sur cette date pour que l'actualité sur les joutes électorales puisse avancer.
Justement, les joutes qui intéressent beaucoup plus les médias, et pour ne pas dire les partis politiques, c'est les élections législatives. Dont la Gazelle, c'est ton journal qui écrit, et prochaine élection législative vers une redistribution des cartes au sein de l'opposition. Et là-dessus, le libéral et la manchette nous parlent d'un des partis politiques, si je ne m'abuse, c'est l'un des plus jeunes, c'est Bati, Bati qui vient de souffler 4 ans. Le parti Bâtir a 4 ans, écrivent le libéral et la manchette, et ce parti Bâtir qui déroule, qui a rencontré les médias quelques jours pour esquisser un bilan et quelques projections dans l'avenir comme perspective. Fabrice, un petit mot sur Bâtir?
Oui, Bâtir qui a célébré ses 4 ans puisque le parti existe, qui est parti d'un mouvement, après devenu parti politique depuis le 4 mai 2019, je crois, a célébré ses 4 ans avec un bilan qu'on peut dire plus ou moins satisfaisant du côté des gens de Batil, puisque quand on prend le nombre d'années que totalise ce parti et ce que ce parti a pu réaliser, on peut dire que c'est bien pour eux, parce qu'ils ont deux députés au Parlement, ils ont des conseillers municipaux, et ce que des partis...
Ils ont même un maire.
Ils ont même un maire. Ce que des partis qui datent de 90, certains n'ont jamais eu. Il y en a même qui ne sont jamais allés à une élection seuls. C'est toujours dans des coalitions. Mais il faut dire aussi que le parti a été très opportuniste en profitant du vide laissé par...
Quelqu'un a laissé et Batir a pris.
Et Batir a pris. Et donc, sur ce coup, je crois qu'on les attend beaucoup pour les prochaines élections, puisque maintenant que personne... n'est dans une logique de ne pas participer. On attend voir réellement ce que pèse ce parti. Mais sur le papier, on a l'impression qu'ils sont bien organisés parce que je crois qu'ils ont observé aussi les autres et ils veulent faire les choses autrement parce que si vous, très peu de partis politiques aujourd'hui peuvent vous brandir leur programme de société. Je dis très peu et je les défie d'ailleurs.
Aujourd'hui. Eh bien, Batir, c'est un parti politique, mais c'est aussi et surtout un sigle qui se laisse décliner en bloc alternatif togolais pour une innovation républicaine. Peut-être qu'un de ces prochains jours, le Club de la Presse peut avoir l'honneur d'avoir un responsable du parti.
Ça, si tu peux, un mot peut-être sur la date des élections. Je ne sais pas pourquoi une date pour les élections se comporte comme le retour de Jésus, où on ne sait, on ne connaît ni l'heure... Ça ne devrait pas être ainsi parce que tout est question de planning, de planification pour les partis politiques. Bon, de toutes les façons, ils ont dit c'est cette année, donc on se dit que c'est jusqu'en décembre, puisque les dernières législatives, je crois qu'on les a eues en décembre. Et on parle de deux élections, on a déjà fait la moitié de l'année avec le mois de juin qui va finir bientôt. Donc on a 6 mois pour organiser deux élections. Est-ce qu'elles seront couplées? Je crois que là aussi, peut-être qu'on commence par avoir une réponse à cette question. Est-ce que ce sera organisé l'une après l'autre ou couplé? Je ne sais pas comment peut-être on peut organiser deux élections séparées en 6 mois. Donc, on peut se dire que peut-être ils sont dans une logique de couplet et qu'ils ne dépasseront pas le mois de décembre. Donc, il faut que les partis... Puisque si ils dépassent le mois de décembre, donc ce n'est plus en 2023.
Et justement, à ce niveau, il faut rappeler, pour ce qui est des élections législatives, que l'Assemblée nationale a son calendrier républicain. Oui. Les députés sont actuellement en première session ordinaire de l'année, qui a été ouverte le 1er mars, qui doit prendre fin le 30 juin. Après, ils auront 2 mois de vacances. Et puis, ils vont être convoqués en session parlementaire, je crois, le 1er septembre. Et pour non seulement étudier les textes de loi, mais aussi connaître et voter le budget pour l'année 2024. Donc, ça veut dire que si on doit renouveler l'Assemblée nationale, il faut que les élections se tiennent dans un délai pour que les nouveaux députés puissent s'installer à temps pour analyser et adopter le budget au cours de la deuxième session normale qui va s'ouvrir le 1er septembre. Bon, mais comme il y a des voix plus autorisées, peut-être qu'ils ont leur calendrier que nous ne connaissons pas encore. Mais revenons avec ce que nous avons fait, c'est attirer l'attention. À propos des élections à venir, la lanterne écrit à propos des élections à venir, conflit au sommet de certains partis politiques quand les enfants d'une même maison se déchirent entre eux. Et les partis qui s'illustrent dans ce jeu-là, c'est beaucoup plus l'UFC et le CAR. Alors qu'il n'y a pas longtemps, l'ANC également a exposé sur la place publique certains de ses problèmes internes. Autre journal, c'est Focus Info qui s'intéresse à ce sujet aussi. Et qui fait un article, en fait, que je vous laisse apprécier. Focus Info écrit « Opposition togolaise. Les pères fondateurs s'en vont avec leur parti. Hein, » Ces pères fondateurs, beaucoup sont qualifiés comme des animaux politiques, des draineurs de foule, des dirigeants charismatiques, des opposants historiques. Mais beaucoup, sinon presque tous, finissent par perdre leur popularité ou leur influence au soir de leur vie, sans héritier, sans dauphin légitime, avant ou après leur décès. Et c'est Togo Matin qui clôture cette série avec cet article à la page 11 et qui porte sur la situation au cas Yao Robert Daté. Et ses soutiens ont-ils définitivement pris le dessus? Estelle Koudjounou, tu connais un peu le feuilleton du cas. Le congrès ouvert le 29 avril, terminé en queue de poisson. Congrès reconvoqué ou réouvert le 27 mai dernier avec Yao Daté élu comme président. Et avec d'un côté, de l'autre côté, les détracteurs comme Jean Kissi, Aoku Nador, Togwe Dagban et bien d'autres qui continuent à revendiquer la légitimité historique du parti de leur côté.
Oui, c'est le triste spectacle que le CAR aussi nous offre. Vraiment dommage qu'après le décès du Bélier Noir, que ce parti aussi historique, très respecté, du vivant de son créateur, de son fondateur, nous livre aussi ce spectacle. Et on le constate que désormais, il y a deux clans également au niveau du CAR. Celui qui a été investi officiellement la fois passée, Yao Daté, est reconnu comme le président national actuel. Mais il y a le deuxième clan qui réclame toujours également sa légitimité, du coup. Mais bon, le congrès a été fait et il se prépare également pour les élections. Maintenant, reste à savoir ce qu'il en sera au moment disons, en période électorale. Comment est-ce que les deux clans vont s'entendre pour pouvoir conduire vraiment les hostilités? Donc, on croise les doigts et on observe, en fait, le feuilleton.
On observe à la fin de cette émission, Fabrice, ces 22 nouveaux diplômés qui viennent de solder leur parcours dans le programme présidentiel d'excellence, qui viennent d'être célébrés, qui sont sur le point d'intégrer l'administration publique. D'après ce que nous apprenons, ces promotions de ce programme présidentiel qui vont être la nouvelle sève pour revitaliser notre administration publique.
Oui, bon, on peut dire félicitations aux récipiendaires qui intègrent l'administration publique parce que c'est quand même une chance pour eux. Ça n'arrive pas tous les jours. Actuellement, certains sont dans des coins, ils attendent les résultats des concours. On ne sait pas si ça tombera. Bon, de toutes les façons, je crois que c'est une initiative effectivement qui permet quand même de donner un peu plus de tonus à l'administration togolaise. Et bon vent aux 22 qui vont faire donc leur premier pas dans l'administration publique.
Et pour terminer la première partie, Estelle, le 5 juin dernier, c'était la journée mondiale de l'environnement. Et la semaine dernière, il s'est tenu au siège de l'UNESCO à Paris une importante rencontre autour de la problématique des sachets plastiques. Aujourd'hui, ton journal nous parle des chiffres qui sont vraiment alarmants dans l'addiction mondiale au plastique et ses conséquences.
Oui, il faut vraiment attirer l'attention là-dessus. Les déchets plastiques jonchent un peu les rues, hein. Même à Lomé, on le remarque de visu. C'est vrai qu'il y a une loi qui a été adoptée, si j'ai bonne mémoire, en 2011 pour contre l'utilisation, l'importation, la commercialisation, oui, un décret et des déchets plastiques non biodégradables, mais force est de constater que la production se fait toujours et ça continue pas être utilisé dans le quotidien du Togolais. Donc, avec les statistiques qui sont vraiment alarmantes que vous découvrirez dans le journal, il est important qu'on prenne quand même les mesures pour mettre en application ce décret-là et préserver en même temps la santé des populations. Donc, nous avons trouvé l'article vraiment intéressant, étant donné que ça porte sur la santé des populations, que vous découvrirez dans le journal.
C'est nous qui utilisons ces sachets plastiques. Quand on achète un fruit ou bien un article, nous demandons qu'on nous double ou qu'on nous triple les sachets, l'eau, la nourriture, les produits pharmaceutiques et autres. Et après utilisation, Gadiel, c'est nous qui jetons tout ça là dans la rue et c'est nous qui nous étonnons que ces sachets plastiques salissent et dégrade notre ville, notre environnement.
Oui, tout à l'heure, en venant devant une maison au niveau du collège protestant, c'est des plastiques hein, qui couvrent, comment dire, le... les rigoles, voilà, oui, qui sont conçues pour faire passer l'eau et tout. Vous savez, c'est la problématique des plastiques dans nos pays. C'est aujourd'hui, tout le monde voit cela, mais on a l'impression que on parle plus qu'on agisse. La nouveauté aujourd'hui, c'est la nourriture chaude dans les plastiques. Mm-hmm. Quand vous allez à des fêtes, la pâte est
et la sauce.
La pâte et la sauce riz. Dans le plastique.
Des gens achètent même le foufou et la sauce tout en chaleur dans les sachets plastiques. Dans les sachets.
On le dit toujours, c'est mauvais, s'il vous plaît, c'est mauvais, chers auditeurs, on le dit à nous tous, c'est très mauvais, les aliments chauds dans les plastiques, c'est toxique. C'est des maladies. Hein? Et à ce niveau-là, on ne finira jamais avec les problèmes de santé dans nos pays, avec ce comportement. Manger ou bien mettre les aliments chauds dans les plastiques, c'est les maladies. C'est les maladies que nous achetons chaque jour.
Merci. C'est vrai qu'il y a de cela. Il faut vraiment agir. Oui, il y a de cela 3 ans, je crois, le secrétaire général du ministère de l'Environnement disait qu'il est un peu difficile de mettre en application le décret en question parce que il ne maîtrise pas encore vraiment le circuit de production de circulation de ces déchets plastiques-là, mais que les efforts étaient en cours.
C'est une sorte d'aveu qu'il a fait.
Oui, 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 mais je crois que c'est vraiment important pour qu'ils se reviennent là-dessus et prennent le taureau par les cornes.
Merci. Bah, qui cherchait à voir comment le Rwanda a réussi à le faire.
Voilà, nous sommes quand même amis au Rwanda. Hein, le Rwanda a essayé et réussi. Le Gabon est en train de réussir l'interdiction de ces plastiques, alors que notre pays est très ami depuis le sommet jusqu'à la base avec celle du pays. On peut quand même aller copier comment ça se fait au Rwanda et au Gabon. Ce sont quand même des solutions africaines qu'on pourra quand même pratiquer chez nous ici. Eh bien, pour la première partie, à la demande expresse d'une auditrice, nous vous passons cette voix et vous nous direz si vous avez reconnu l'auteur de la voix.
Les tonnes opposant des pèmes, les gars, t'es sauvé du yo. Vous les comprendre. Mais Togo vio toi, tu vas. Togo vio,
non, les. Qu'est-ce que tu as dit? Mais il y a des trucs qui sont sauvés du yo. Mais t'as mis les mains,
l'eau. Peuple, j'en ai peuple.
Bon, non, opposant mini.
Quel opposant?
Opposant mini.
Eh bien, c'est pas un pugilat, mais un extrait d'une émission au cours de laquelle notre désormais feu regretté Jacob Ahama a reçu Nicolas Lawson, leader du parti PRR, sur Radio Victoire. À présent, la pause. 93.5. Eh bien, l'heure a sonné pour vous écouter, recevoir vos commentaires et vos questions. Nous vous prions juste de vous en tenir au sujet que nous avons exposé, discuté aujourd'hui.
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, monsieur Sass, bonjour.
C'est Sylvain Agbaï, ça?
Effectivement. Mm-hmm. Bon, moi, je vais faire une doléance.
À qui?
Auprès de Dieu.
Auprès de?
Dieu.
Dieu même?
Oui.
Ah, nous ne sommes pas à la mosquée, au temple ou bien à l'église, hein?
Et ça peut sembler être qu'on est à l'église ou bien dans une mosquée.
Ok, allez-y. Comme Dieu est partout, il va vous écouter lui-même.
Voilà, merci. Et que ceux qui devaient rester encore un peu avec nous restent. Et ceux qui devaient aller chez lui, ou bien ceux qui devaient appeler, qu'ils les appellent. Merci.
Non.
Bon, ça, c'est monsieur Sass.
Oui.
Franchement, ça fait des semaines que vous interpellez ces deux ministres-là. Nos paysans sont laissés pour compte. Depuis des semaines, vous faites cet appel. Que ces deux ministres sortent. Mais si c'est en politique, ils sont prêts à faire des sorties. Pourquoi pas quand il s'agit de social, ils se taisent.
Merci, Sylvain Agbaï. Allô? Oui, le suivant déjà en ligne. Bonjour.
Allô?
Oui.
Allô?
Bonjour, bonjour.
Bonjour, monsieur Sardaou.
Oui, c'est monsieur?
Je salue le plateau.
Oui.
J'appelle pour la filière soja là.
C'est monsieur?
C'est monsieur Combaté.
Vous nous appelez d'où s'il vous plaît?
J'appelle de Granawe.
Oui, allez-y.
Moi qui vous appelle actuellement, j'ai un stock sous la main actuellement qui n'arrive même pas écoulé. Cette année, j'ai remarqué que les Béninois sont venus vendre leur soja au Togo ici. Comment est-ce qu'on peut nous promettre qu'on veut avoir les agriculteurs millionnaires dans ce pays et qu'à la fin, nous n'arrivons pas à écouler nos produits?
Et pourquoi vous n'arrivez pas justement à vendre votre production?
C'est pour la raison pour laquelle j'ai appelé.
Oui, alors dites-moi, pourquoi vous n'arrivez plus à écouler votre stock?
Oui.
Pourquoi vous n'arrivez pas à écouler votre stock?
Oui, parce que cette année, les étrangers qui viennent pour prendre les stocks, les Béninois, ils ont accepté jusqu'à s'être dépassés, quoi. On les voit. Parce que moi, j'avais stocké pour moi, pour vendre ça en juin. Actuellement, quand il va vers eux, ils se disent qu'ils ont déjà, reçu, qu'ils n'achètent plus. Vous voyez?
Ok. Un témoignage, je présume, authentique de l'ami Combaté. Le suivant, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, mon patron.
Ah, c'est Patrick.
Ah,
vous avez aussi des sacs de soja?
Non.
Ok.
Ok. Monsieur Sass, franchement, j'étais pas Lomé. Je suis revenu hier et j'ai appris l'information de votre confrère là. C'est vraiment déplorable. Et tout ce que je peux dire, que son âme repose en paix.
Amen.
Et il a souvent l'habitude de dire quelque chose au cours de ses émissions. C'était son feu le plus crucial. Et c'est quoi? La route d'Adidjo Gomé, l'éclairage. À son honneur, je demande à l'autorité qui est en charge de cette route de mettre l'éclairage là, au moins pour honorer sa mémoire.
Merci.
Et pour finir, M. Sass, vous n'avez pas discuté de ça, mais excusez-moi, c'est vraiment un peu déplorable aussi, au grand nom, où à Dapaon, la ville de Dapaon, M. Sass, je vous le dis, il n'y a aucun feu tricolore. Je dis bien, il n'y a aucun feu tricolore dans la ville de Dapaon. Je n'ai pas compris. Bonne émission, M. Sass.
Merci. Cette information, l'endroit des maires de la localité, pourquoi pas des représentants de l'administration publique et du pouvoir central. L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Merci.
Et si? Ok, nous écoutons.
Que Jacob repose en paix.
Amen.
Au paradis. Il ira au paradis, c'est sûr. Parce qu'il vient du Togo.
Ah bon, vous avez comme décrété.
Comme tous les autres. Il ira au paradis. Parce que c'est un Togolais. Il nous a laissé dans notre enfer. Le Togo, quoi. Et puis, Kennedy nous a parlé du plastique qui est toxique.
Oui.
Il y a les cubes. Il y a même le pétrole qu'on achète, tout ça là, ça comporte du plomb. Et c'est pas bon pour la santé.
Oui.
Et l'engrais aussi, l'engrais chimique qu'on veut nous emmener là. Il y a les composts. On plantait nos aliments, on faisait nos cultures normalement avant. C'est parce que les Blancs nous ont vus. Ils voient qu'on est bien portant en Afrique. Et même la chaleur crame les virus et nous guérit. Guérit de plein de maladies, qu'ils nous envoient ces trucs-là, que nos dirigeants arrêtent ça, quoi.
Merci.
C'est pas qui nous force à l'utiliser. Moi, j'ai un champ, mais bio. Comme eux aussi, ils ont des champs bio.
Merci beaucoup.
Et puis, pour l'Afrique, et le Sénégal, les partis politiques qui s'entrechoquent, tout ça là. Et c'est parce que les dirigeants ont cramé la constitution qu'on a importée. Ils ont cramé la constitution, ils font ce qu'ils veulent. Et puis voilà, sinon, il fallait alterner normalement.
Merci beaucoup.
Ça coulerait comme,
Je sais que vous allez venir à votre refrain avant la fin de votre intervention. Merci, Essie. Au suivant, bonjour.
Bonjour, c'est Ali.
Ali.
Merci, je sais que vous avez abordé l'amour de votre confrère, Mais justement, ce que j'ai pas aimé, vous n'avez pas précisé que son émission, la partie qui a été incriminée à la HAC. Moi, je vous dis, quelle que soit la maladie de votre frère qui est mort, la HAC en est une cause. Parce que c'est une torture psychologique sur lui. Le stress fait partie de sa mort.
L'ami Ali.
S'il vous plaît.
Non, écoutez-moi, monsieur Ali.
Oui.
Le principe de l'émission du Club La Presse, vous dites tout, mais vous dites des choses dont vous êtes sûr. Est-ce que vous avez vu le bilan de santé, le certificat médical ou bien le certificat de décès de Jacob Arama pour savoir la cause de sa mort?
Voilà. Si vous, ça, deux jours, on vous éloigne de. Involontairement de ce micro, vous tomberez malade parce que c'est votre passion. Continuons. Nous qui sommes vivants, nous disons que l'engrais, le programme qu'on est en train de faire, c'est pas le bon chemin. On n'a qu'à penser à nos ordures qui sont là pour les transformer en engrais organique. Et ce qu'on vous dit, que carbonaté là, qu'est-ce qui vous dit que c'est pas chimique? Les processus de production, on ajoutera toujours les produits chimiques. Et dans ce pays, nous disons, si on ne nous permet pas de contribuer au développement de ce pays par nos opinions aussi, c'est une forme de torture. Et je dis, ce gouvernement nous torture psychologiquement depuis.
Merci. Ali, je disais hier, si vous avez de l'expertise en matière d'engrais, vous pouvez approcher le gouvernement pour collaborer, et prévenir et faire comme vous le souhaitez, comme nous le souhaitons tous. Merci beaucoup, Ali. Le suivant, bonjour.
Oui, bonjour, grand professeur Kaou.
Oui.
Je me nomme Benoît Dagoué.
Oui, j'ai reconnu la voix, le style.
Merci beaucoup. Bon, je présente mes condoléances à vous, les journalistes, aux familles. Et comment j'ai oublié son nom là.
Jacob Arama.
Voilà, merci beaucoup, Jacob Arama. Bon, à faire de ce gars-là, le président, son expérience de président Ford a fait des rencontres avec les pays non nord, leur a donné ce qu'il faut pour cultiver. Maintenant, on cultive et on ne sait plus quoi faire. Mais vous voyez que c'est un peu dommage. Hein.
Mais pas un peu. C'est dommage.
Ah, ok. Mm-hmm. C'est dommage. Sincèrement dommage. Merci, bonne journée.
Je vous en prie. Encore une fois, c'est pourquoi il faut que des voix autorisées sortent de leur silence pour éclairer l'opinion. Il s'agit des acteurs, des producteurs, des négociants avec tout ce qui tourne autour de ce beau monde-là.
Allô?
Le suivant, oui, bonjour.
Oui, Sass, bonjour.
Ah, Didier.
Bonjour Fabrice, bonjour tout le monde. Je m'incline d'abord devant la mémoire de notre ami, de notre frère, Jacob Arama.
Merci.
Que la terre lui soit légère, que le Seigneur lui reçoive dans son paradis.
Amen.
Comme l'a dit Laïci, il a déjà fait son enfer sur terre au Togo. Et puis, je voulais venir sur le. La dernière fois, j'avais parlé de l'agriculture. Non, l'État oblige les gens à faire les cultures. En principe, l'État est obligé de prendre les surplus. Et Fabrice les avait défendus ici. Où est-ce qui se passe? Le gouvernement, là, ils ne sont jamais prévoyants. Ils ne sont que dans la communication, dans la propagande. Vous oubliez les gens à cultiver. Maintenant, les gens cultivent en surplus. Vous n'arrivez même pas à prendre ce qu'ils font maintenant. Vous les mettez en dette. Ils sont en dette maintenant. Mais l'histoire de Olam, l'arrivée de Olam, vous connaissez l'histoire de Olam. C'est une société qu'on doit, le Parlement doit auditer. Qui l'a amené? Ils sont venus comment? Avec combien ils sont venus? Et ils ont du coton, ils sont partis dans le soja. Et maintenant, voilà la pagaie qui se passe. C'est pas normal. Si le pays fonctionne comme ça, vraiment, ce qui reste dans ce pays-là, je vous encourage, hein, vraiment, je vous plains.
Vous
quoi,
aussi, Didier, pas... vous aussi, vous êtes dans le pays avec nous.
Oui, mais quand même, ceux qui, vous savez ce que je veux dire, c'est ça. Ceux
non,
qui restent,
Didier, souffrez que je vous rappelle que chez nous, on nous a enseigné qu'on ne montre pas la maison de son père avec mais la
voilà, main gauche. Voilà, ce qu'on nous a dit, ça fait pas longtemps, on nous a dit, agriculture, on a fait trois, chaque fois, on est là avec publicité, le chef de l'État est parti là-bas, le chef de l'État, et même, il avait même dit, il espère des milliardaires. Je vais lui poser la question, président. C'est comme ça qu'on devient. L'exagéré peut devenir milliardaire dans ce pays, bien millionnaire. Merci. Si vous pouvez lui poser la question, il peut me répondre.
Non, Fabrice a déjà attiré l'attention du chef de l'État sur.
Il avait défendu la dernière fois. Monsieur Fabrice, quand on parlait de ça, que l'État, en Europe, ils sont obligés de subvention, de prendre ses surplus. C'est ce qui se passe. C'est là qu'ils copient les trucs. Vous m'oubliez. Donc, moi, je voulais rentrer de l'agriculture, mais je dis que mon sang, que je fais, j'ai les ventes, je vais m'endetter pour rien.
Merci Didier. Beaucoup. Nous allons prendre le tout dernier auditeur aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Oui.
Comment tu vas?
Pardon?
Comment tu vas?
Oui, c'est monsieur?
C'est Karim.
Karim?
Oui.
Karim le taximan?
Oui, c'est le taximan.
Oh, ah. Merci pour la résurrection.
Oui, ça va. Je salue la mémoire de Jacob Ahamad, que la paix soit légère.
Mm-hmm.
Et je salue tout la corps de la presse. Et tout ce qu'ils ont fait.
Karim, diminuez un peu le volume de votre poste là-bas.
C'est bon maintenant?
Oui, ça va, ça peut y aller.
Ça, tu sais que moi-même, j'ai 4 sacs de soja actuellement que j'en ai même pas avant. Je te jure, actuellement, ça, la préfecture de Rao. Et le prix est tellement baissé qu'on ne sait même pas quoi dire. Et maintenant, ils ont augmenté l'argent sur coton. Et maintenant, on demande, on va laisser nos soja à la maison pour encore aller semer coton bien comment. Et on demande pardon à la ministre de pas obéir. Au moins, il n'a qu'à pitié de nous quand même. Nous
alors, Karim, Karim, est-ce que vous avez approché un peu les autorités décentralisées de l'agriculture dans le Haro?
Oui, mais c'est la même question. Ils sont tous là-bas. Ils n'ont rien à te dire. Ça, je ne vous mens pas. Ils n'ont rien à te dire. Ils n'ont rien à vous dire.
Mm-hmm.
Merci, bonne émission.
Je vous en prie, l'ami Karim. Merci à Sylvain Agbayi, à l'ami Compaté, Patrick, Essie, Ali, Benoît Dagoué, Didier, Karim. Fabrice, l'ami Didier t'a un peu caressé là, sur la filière soja. Il semblait dire que hein, tu avais défendu le gouvernement il y a quelques jours sur la destination des surplus agricoles.
Je crois qu'il doit faire une confusion.
Okay, ta conclusion pour cette émission.
Non, je voudrais juste revenir sur la question des engrais qui sont des produits chimiques, qu'il faut le reconnaître, qui ne sont pas sans conséquences non seulement sur les sols, mais également sur les produits que nous obtenons.
Juste sur la nappe phréatique.
Hein, oui, bon, j'ai entendu des gens dire le compost, bon, qui consomme bio. Oui, le compost, ça peut servir pour nourrir votre seule bouche. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons parlé de l'augmentation de la population qui est là et on ne peut plus compter aujourd'hui sur les croûtes des bœufs, des moutons pour engraisser un champ et nourrir toute cette population-là. C'est un peu ça le paradoxe. De toutes les façons, scientifiquement, on dit, bon, si vous ne mangez pas 9 jours, vous mourrez. Hein. Vous mourrez. Mais bon, quand vous mangez mal, vous mourrez progressivement. Donc, pour moi, le choix est clair.
Merci beaucoup. Estelle?
Oui, mais c'est vrai, la population grandit. Les espaces cultivables se réduisent, mais je crois qu'il faut aller plutôt dans le sens de l'engrais organique et minéral. Ça réduit un peu ce côté chimique et puis destructeur des engrais pour accroître au fait les productions aussi. Et c'est bien ce que disent les déclarations de la rencontre de la dernière fois. Donc vivement que ces déclarations soient mises en application pour le bien des populations.
À ce niveau-là, c'est vrai que et nous, journalistes, beaucoup d'auditeurs, hein, nous autoproclamons experts en matière d'engrais chimiques. Moi, je suis totalement ignorant, mais je pense qu'on doit approcher. Comment est-ce que les pays comme la Thaïlande, hein, les Philippines, le Vietnam font pour récolter 4 à 5 tonnes de riz à l'hectare? Les pays comme la Belgique, les Pays-Bas, qui sont beaucoup, dont l'espace est encore beaucoup plus réduit que nous, quels engrais ils utilisent pour produire en quantité jusqu'à exporter chez nous? Je pense qu'on doit aller à ces écoles-là.
Oui, c'est possible. Il faut envoyer des missions, faire l'expérience qu'ils reviennent.
C'est les engrais, tout ce qu'ils amènent,
ici.
C'est bourratif. Bourrez-vous, c'est tout.
Et puis non seulement ça, aujourd'hui, ils ont la culture hors sol est très développée aujourd'hui dans ces pays-là. Donc, ils ne tiennent plus compte forcément des espaces cultivables au sol. Mais s'il y a de l'espace en l'air, ils font avec, quoi. Ce qui multiplie aussi les productions et les récoltes. Donc, on a encore beaucoup de chemin à faire, mais ayons la volonté de le faire, on y arrivera.
Sûrement. Tu as la foi?
Bien sûr. Je reste positif.
C'est la fin du le mandat de Samber Ousmane. Tu te rappelles la fin?
Bien sûr.
Il a dit, tout cela changera, mais mieux, nous
même
changerons tout cela.
Justement.
Gadiel Gamli, tu en as dit?
La prochaine fois, on viendra un peu parler de cette filière de soja.
et que peut-être dans la semaine, les voix autorisées viendront expliquer mieux ce qui se passe actuellement, parce qu'il y a un auditeur qui vient de témoigner que il paraît que certains d'autres venaient de d'un pays d'à côté pour vendre. Donc il y a de l'incompréhension autour de l'affaire. Il faut vraiment qu'on clarifie la situation et qu'on prenne les sacs de soja de ces agriculteurs qui sont là invendus. C'est absolument important pour qu'ils rentrent en possession de leurs fonds et financer d'autres champs après. Alors, si vous voulez, je peux donner mon carton.
Vas-y.
Carton rouge.
À qui?
Finalement, je ne sais même pas qui. C'est la mairie, c'est les mairies, c'est le ministère des Transports. Les retenues d'eau sont toujours là et créent des problèmes. Ouais. Juste, le crachin d'hier a encore fait des dommages au niveau de la douane d'Aïdogomé. Bon, c'est aussi un problème dont on parle tout le temps.
Surtout, mais si la voie principale est bouclée, au moins aménager les déviations. On vous torture les véhicules. Après, vous allez voir le mécanicien qui vous sort des factures impossibles. Hein? Si la route principale est bloquée pour un moment, au moins aménager les petites déviations sur un kilomètre pour soulager la peine. Hein? Nous sommes d'abord des électeurs, hein. Oui, il faut le dire.
C'est des menaces.
Non, il faut le dire aux maires, aux députés et autres.
Il faut donner la date des élections.
Nous sommes non seulement des amis de la route, mais nous sommes également électeurs. Ok.
Oui, enfin, pour clôturer, hein, il y a de cela deux mois, le 27 avril, où le président disait qu'il veut avoir des producteurs, des agriculteurs milliardaires.
Oui.
Donc, c'est son vœu. Mais maintenant, il faudrait que les politiques aillent dans ce sens-là pour que les producteurs soient vraiment milliardaires, qu'il y ait ces dysfonctionnements évitent une solution. Donc, voilà un peu, je n'ai pas de carton.
Merci Fabrice. Avant ton carton, je rappelle que nous avons un fidèle auditeur, colonel à la retraite de son état, qui nous suit militairement ou religieusement et qui vous adresse à vous, hein, surtout il t'a cité un carton vert pour la richesse des débats et surtout le courage que nous avons de supporter les débats contradictoires.
Oui, carton vert à lui aussi pour ce soutien. Et bon, pour finir, je crois que je reviens un peu sur le deuil qui frappe la corporation, notre confrère que nous venons de perdre, et dire que je crois qu'en ce moment précis, c'est beaucoup plus comment trouver les mots pour consoler les uns et les autres, et surtout éviter les polémiques sur les dépouilles mortelles.
Merci. Le Club de la Fête voudrait, bon, c'est pas un carton, mais saluer un auditeur. C'est notre ami Karim. Voilà un Karim qui est conducteur de taxi à Lomé ici, mais à chaque fois que la saison agricole arrive, il laisse son taxi, il retourne dans son village, dans la préfecture de Haro, il cultive pour se sécuriser de la nourriture, et quand on a parlé du soja, il a cultivé le soja aussi. Et voilà, il se retrouve avec le soja sur les bras, qu'il ne peut pas préparer avec sa femme et ses enfants. Alors, c'est Karim peut-être a écouté le chef de l'État, il veut devenir milliardaire par l'agriculture, eh bien qu'on l'aide, hein, à ce qu'il soit ainsi. C'est un symbole, mais on peut avoir 3, 4, 20, 50 Karim qui écoutent le discours officiel et qui se mettent à l'agriculture. Il faut les aider à ce que les ambitions se réalisent. C'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain jeudi à 11h. Dadiel, nous avons la foi que Dieu le voudra, n'est-ce pas?
Dieu le voudra bien.
Amen.
Amen.